Bonsoir les amis des livres et des apéros. Les contes, c'est pour les enfants. Quand on grandit, on les oublie. Les adultes se tournent alors vers les histoires vécues. On raffole des récits estampillés, inspirés de faits réels. On veut de l'authentique. Que nous offre le cinéma en ce moment? Des biopics, un film sur Dalida, un sur Pablo Neruda et un autre sur Chet Baker. À la télé, c'est Fait entrer l'accusé qui donne des frissons. À la radio, c'est Affaires sensibles. Et en littérature, on ne compte plus les histoires vraies. L'adulte veut de la réalité. Ah bon? Ah bon, et vous n'en avez pas marre de débiter ces sornettes? Non, parce qu'elles, elles sont bien réelles. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est vécue, cette Dupont-Mono! Mais regardez du côté des livres, et vous verrez s'ils aiment le réel. Les simples contes des collines de Rudyard Kipling, c'est pour les enfants peut-être? Et les mille et une nuits? Et les trois contes de Flaubert? On pense que, oui, bon, c'est parce que les adultes sont de grands enfants. Pas du tout, ce sont les enfants qui sont des petits adultes. Et c'est pour ça que l'imaginaire d'un conte, quand on regarde bien, frôle une certaine violence. En tout cas, aborde frontalement l'âpreté de la vie. C'est ainsi que les contes, la pure fiction, parlent bien mieux du réel que les œuvres qui s'en réclament. Et s'il fallait encore une preuve, elle est là, c'est un roman. Le Bureau des Jardins et des Étangs, il est signé Didier Decoin, il est paru chez Stock. Nous sommes au Japon en l'an 1000. Une jeune paysanne, Miyuki, a perdu son mari qui était pêcheur de carpes. Alors, elle glisse délicatement 8 carpes dans des nasses en osier et elle entreprend le long voyage vers la ville impériale que son mari aurait dû faire. C'est ce périple que nous raconte Didier Decoin et au fond, tous les contes sont le récit d'un voyage. Miyuki est seule et les dangers nombreux. L'accompagnent les odeurs d'une nature pas forcément bienveillante et les poissons brillants qui tournent doucement dans l'eau noire. Miyuki connaissait la luxure, elle découvrira le luxe. Elle savait la brutalité, elle rencontrera la violence. Mais toujours, elle gardera près d'elle ses carpes, dernier souvenir de son mari. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Didier Decoin. Mais rien à base de carpes, promis, pas de rillettes de carpes, pas de terrine. Il nous livrera ses secrets d'écriture, sa ville impériale, ce sera le procès verbal. Nous offrira ses goûts culturels, aussi cachés qu'un poisson dans la vase sombre d'un panier, ce sera les inavouables, avant qu'une libraire gardienne des contes ne vienne éclairer les rives de nos étangs.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Didier Decoin.
Bonsoir Clara.
En France, on ne croit plus aux contes en grandissant. Est-ce que c'est aussi le cas au Japon?
Ah non. Alors les Japonais vivent dans un monde féerique de monstres aussi. Ils ont beaucoup d'ogres, ils ont des bestioles. Pas possible, mais eux sont persuadés qu'il y a un autre monde. Parallèle au nôtre et dans lequel d'ailleurs ils entrent assez volontiers, assez facilement.
Donc c'est pour les adultes aussi?
Ah complètement. Complètement. Mais je trouve d'ailleurs, quand vous regardez la tête d'un vieux japonais, il a l'air de sortir d'un conte de fées. Et d'une jeune japonaise aussi, mais d'un vieux japonais, c'est ces espèces de petits cheveux extrêmement fins, comme des micro-vermicelles blancs qui pendent, que le moindre souffle d'air fait volter. On a l'impression que ce sont des êtres qui n'existent pas vraiment.
Alors, on lit votre roman un peu comme on écoute un griot africain. La nature fait... La littérature fait un peu fusionner les continents et les époques. C'est une sorte de griot japonais. Mais est-ce que vous vouliez rendre hommage à une forme de tradition orale, qui est celle du conte?
Non, j'ai pas pensé que j'écrivais un conte. J'ai pensé que j'écrivais un livre qui voulait plutôt rendre hommage à une civilisation qui est perdue, qui est celle de l'époque du médiéval japonaise, parce que j'étais troublé et fasciné par le fait que ces gens vivaient dans un raffinement, les nobles s'entend, dans un raffinement extraordinaire dont on n'a plus idée aujourd'hui, alors que nous, occidentaux, qui avons tendance à la ramener à nous là-bas, etc., nous étions dans des châteaux forts qui dégoulinaient d'humidité, avec des gens qui dormaient dans des peaux d'ours, avec une espèce de brutalité où les hommes avaient vis-à-vis des femmes une attitude presque semblable à celle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire insupportable. Mais pendant ce temps, les Japonais, eux, vivaient des histoires d'amour, de délicatesse. Ils faisaient des concours de poésie, ça tout le monde le sait, les joutes poétiques. Mais ils faisaient des concours de parfums, ce qui a été le point de départ de mon livre. Et j'ai été fasciné par ça.
De quoi mettre 12 ans de votre vie au service de ce livre, Japon en 1000. Vous n'avez jamais mis les pieds au Japon.
Donc ça viendra, j'espère.
Eh ben oui, mais quand vous écriviez ce livre, 12 ans, c'est long. Vous aviez peur d'être déçu, Didier Decoin?
Non, j'avais pas peur d'être déçu, c'est simplement que ce Japon-là a disparu. ça a duré très très peu de temps, dans le fond, de, on va dire, de 894 à 1200. C'est pas très très long.
Votre héroïne, Miyuki, elle transporte un animal avec elle. Pas n'importe quel animal.
Ce qui est extraordinaire chez les carpes nishiki, celles qui sont colorées, c'est qu'elles sont très pacifiques et ne se battent jamais. Elles apportent la paix dans votre âme. C'est ce que les Japonais apprécient.
Dans l'imaginaire japonais, voilà, les carpes symbolisent la paix. Qu'est-ce qu'elles symbolisent, les carpes ?
Elles sont placides d'abord. Elles n'en veulent à personne. C'est vrai qu'elles ne sont pas agressives.
Mais la vache aussi. Non plus.
Oui, mais ils n'avaient pas de vache, c'était interdit de manger de la viande à cause du bouddhisme. Donc ils n'élevaient pas de vache. On avait le droit de manger de temps en temps un sanglier en prétendant que c'était un cochon aquatique. Enfin, c'était très compliqué. Vous savez, il y a deux sortes de carpes. Il y a la carpe multicolore, la koi, qui est en technicolore, qui est une carpe absolument sublime. C'est celle-là dont je voulais parler dans mon livre. Malheureusement, à l'époque, Yann, elle n'existait pas encore. Elle existait en Chine, mais pas au Japon. Au Japon, il y avait la carpe monochrome. La carpe en cuir ou en bronze, enfin, comme vous voulez. Très belle. Alors, sa beauté venait de la façon dont les écailles étaient organisées, si elles étaient bien rangées, etc. Et puis, la carpe, elle symbolisait aussi la résistance, la patience. C'est un animal qui peut vivre dans des conditions de froid que d'autres ne supporteraient pas. En plus, c'est un animal qui n'est pas stupide. Elle va très très vite comprendre, quand on veut la pêcher, que l'appât, il y a un hameçon derrière. Et puis, elle va le regarder avec ses gros yeux. Alors, elle regarde ça et elle dit « Tu ne mourras pas !»
Durant tout son périple, Miyuki ne se sépare pas de ses carpes. C'est l'idée de l'animal qui justifie le voyage.
Alors, j'ai entendu que vous veniez d'Algérie et vous allez rester ici jusqu'à la fin du mouvement.
Non. Moi, je pars demain parce que je marche jusqu'à Paris au salon de l'agriculture.
Ah, d'accord. Et vous marchez comme ça depuis longtemps ?
20 jours, poids de pile.
Et qu'est-ce que vous allez faire au salon de l'agriculture ?
Je vais faire le concours des belles vaches avec Jacqueline, ma vache, tu l'as pas vue ? Regarde comme elle est magnifique.
Ah, elle est très belle, oui.
Elle est belle, hein.
Le film « Lavage » de Mohamed Hamidi en 2016.
C'est adorable.
Et c'est basé sur le même principe, c'est-à-dire que c'est l'animal qui motive le voyage de l'homme. Est-ce qu'on peut dire que Miyuki porte les carpes autant que les carpes portent Miyuki ?
Ah oui, s'il n'y a pas de carpes, il n'y a plus de Miyuki, elle s'effondre. C'est le pont, la passerelle entre là où elle va, le palais impérial, pour mettre ses carpes dans des étangs sacrés. Et c'est aussi là d'où elle vient, parce que ses carpes, elles ont été pêchées par son mari avant qu'il ne se noie. Donc c'est le lien le plus étroit qu'elle puisse avoir avec l'homme qu'elle a. Elle l'a adoré, son mari. Il faut dire qu'il l'a aimé profondément aussi. Et pour elle, la perte de cet homme a été un séisme épouvantable. Je ne vais pas dire que ce sont des bébés, mais quelque part, il y a un lien organique entre Miyuki et ses carpes.
Miyuki, ça n'est pas un être très sophistiqué. Elle ne sait pas vraiment ce que c'est que le bonheur, par exemple, ni non plus la fierté. Vous écrivez, dirions-nous qu'elle était fière ? Non, nous ne le dirions pas. La fierté était un sentiment inconnu pour une veuve qui n'avait d'autre espérance que de redevenir une paysanne touillant l'urine et la bouse de bœuf de Shimae, qui est son village. Il se trouve que la femme du Japon médiéval, Didier Decoin, c'est un monde de raffinement extrême. Et vous choisissez la paysanne vaillante. Pourquoi ?
Parce que je voulais mettre ce petit ferment de souillure, enfin souillure dans le bon sens du mot, souillure, c'est une fille bien, je voulais mettre ce petit ferment de souillure dans le flacon de parfum. Pour voir ce qui allait se passer. Quand j'étais enfant, je me rappelle, on faisait des expériences de chimie au collège. Alors, on mélangeait, je sais pas quoi, dans de l'acide ou dans les bases, et ça faisait pshit, ça faisait des fumées puantes, abominables. Mais c'est ça qui était bien. Alors moi, je voulais voir ce que donnait une fille comme ça, paysanne, qui ne sait rien sur rien, qui est juste une fille sensationnelle dans son cœur, dans son âme, mais c'est rien, et qui en plus s'est salie pendant un voyage de 400 km à pied. Elle a marché dans la boue, elle a marché dans la merde, elle est allée dans la vase, elle sent pas bon du tout. Ce qui va arriver quand elle va se présenter aux portes d'un palais où tout est tellement raffiné que si une femme fait une faute de goût avec ses 15 épaisseurs de soie, elle va être disgraciée à vie par l'empereur, surtout par l'impératrice, c'est elle qui aura repéré la faute de goût. Mais si vous avez une teinte prune, un peu trop prune ou un peu trop cerise, vous êtes viré. Qu'est-ce que cette petite fille malpropre, qui n'est personne, qui n'est rien, qu'est-ce qui va se passer quand elle va entrer dans cette cour ? C'est le résultat final de cette équation chimique, en quelque sorte, que je voulais raconter. Parce que dans le fond, c'est ce que nous vivons, nous. Je ne vais pas forcément faire référence aux migrants, mais nous passons notre temps maintenant dans notre société à voir des gens qui ne sont pas du tout comme nous entrer dans nos zones. Et nous nous demandons ce qu'ils viennent faire là. Mais ils viennent faire la même chose que Miyuki, ils viennent vivre.
C'est une rivière qui a pris le mari de Miyuki. Ouais. La neige, à un moment, va l'empêcher d'avancer. La terre menace son village. Il y a de la vase, il y a de l'humus. La nature n'est pas forcément bienveillante dans votre roman, Didier Decoin.
Non, elle n'est pas bienveillante au Japon d'une manière générale. C'est quand même un pays, d'abord, où les tremblements de terre sont fréquents. On le sait, c'est un pays qui est capable de se fâcher. Enfin, la terre japonaise est capable de se mettre en colère.
La fameuse vague de Hokusai que l'on connaît.
Oui, qui est une sublimité d'image. Mais oui, la nature...
Miyuki se soumet à ses lois. C'est plus un exercice de soumission.
Elle les respecte. Et je crois que c'est une jeune femme qui est infiniment respectueuse des choses de la vie, de la mort, de l'amour. C'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est le respect. Et elle, Miyuki, c'est le respect fait femme. Elle a respecté son mari, elle respecte l'ordre impossible qu'on lui donne d'emmener des carpes à la ville impériale, elle respecte les gens qu'elle rencontre, elle va croiser à un certain moment une guerre, une attaque de pirates, et elle respecte aussi ça, elle est tout respect. Ça ne veut pas dire, pour autant qu'elle ne juge pas dans son fort intérieur, mais... Elle sait que chacun a le droit à son espace de vie, voire de fureur.
On ne sait pas si Miyuki aime la musique. On a cherché à la muse-bouche une musique en pensant à elle et à ses poissons. Qu'est-ce qui s'est imposé à votre avis, Didier Decoin ? C'est la maman des poissons de Bobby Lapointe.
Oui.
Attention, la voici chantée par une japonaise, Noriko Kato. Et oui, Shinshi, ça veut dire monsieur en japonais, Shinshi.
Si l'on ne va pas purer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, le maman ne les gronde. Quand ils se lient à fait pipi au lit, eux bien solution c'est eux à cacher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie. De tartines, ils mangent quand ils sont tombés. Et quand ça a dîné sardines, la maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et ma Dieu l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'il veut le prendre un petit verre, elle les a peu. Montrons comment s'en donner. On les décroche du leur papier. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais fronter les soucis. Les petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et ma Dieu l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'il veut être ma cure, c'est pas elle qui les empêche de se faire des réponses sur le dos. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les soucis. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et ma Dieu l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. J'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle y fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout. Froncer les soucis, ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi tu l'aimes bien avec du citron. Si l'on ne va pas purer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, le maman ne les gronde. Quand ils
disent la muse bouche sur France Inter.
Didier Decoin est avec nous jusqu'à 20h pour son roman Le Bureau des Jardins et des Étangs. Didier, vous étiez en train de bouger des épaules sur la chanson La Maman des Poissons.
Oui, c'est vrai, on parle souvent d'hymne national. La Maman des Poissons a été pendant longtemps un hymne familial. Parce que j'avais acheté un petit bateau de pêche, et j'ai trois garçons, et je voulais emmener mes trois garçons à bord. Et alors, il fallait qu'ils essayent des jets de sauvetage, des trucs comme ça. Et pour les amuser, pour que ce soit un jeu pour eux, je les ai défilés tourner en rond dans la cuisine en chantant La Maman des Poissons, tin, 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 tin. Et ça, ça durait des mois. Et à chaque fois qu'on allait vers le bateau, on descendait la rue du village, la maman des poissons. Alors, je pense que les gens qui entendaient cette chanson, ah, c'est les deux coins qui s'en vont à la pêche.
Votre roman, Le Bureau des Jardins et des Étangs, c'est l'histoire d'une jeune paysanne, Miyuki, qui voyage longtemps pour amener des carpes à la ville impériale. Nous sommes au Japon, en l'an 1000. À ce propos, vous avez dit, nous, on dormait dans la paille sous Charlemagne et eux vivaient dans de la soie. Je vous trouve un chouille dur avec le Moyen-Âge occidental, qui avait aussi son raffinement.
Oui, pareil. Bon, c'est la regrettée Jeanne Bourrin.
Qui a écrit La Chambre des Dames.
Voilà. Qui m'a dit un jour, je lui disais, mais le Moyen-Âge, c'est quand même un âge pourri. C'est-à-dire, comment un âge pourri? C'est un âge génial. Mais imaginez que les rues étaient jonchées de menthe fraîche et qu'on piétinait la menthe fraîche pour que de bonnes odeurs sortent. Mais en même temps, je veux dire, on vidangeait aussi dans ces rues, du haut des maisons, des vases d'aisance, pour ne pas dire autre chose. Non, c'était un monde brut. Pas brutal, c'est un monde brut. Alors que le Japon Heian, à l'époque Heian, était un monde extrêmement... Pensez que pour écrire une lettre, je vais vous écrire une lettre, alors voilà. Alors, Clara Dupont-Mondeau, je vais vous parler de cette émission. Vous avez été formidable, Clara. Donc, il faut que je trouve un papier dont la couleur aille avec le contenu de ce que je vais dire. Une fois que j'ai trouvé ce papier, il faut que je trouve une encre qui ait aussi un rapport avec ce que je veux dire, qui soit ou brillante, puisque votre intervention est brillante, une encre brillante, un pinceau qui soit extrêmement fluide, parce qu'il semble que vous êtes une femme gracieuse, donc vous avez cette fluidité. Et puis, donc, je vais faire cette lettre. Et puis après, il va falloir que je la plie, j'en fasse un rouleau. Donc je vais la rouler et que je la ferme avec un brin végétal. Alors je vais aller dans mon jardin et je vais choisir un brin végétal qui a lui aussi un rapport avec vous. Il y a une fleur qui s'appelle la Clara ou
Il faudrait qu'on l'invente. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est moins rapide qu'un mail.
C'est moins rapide quand même, mais qu'est-ce que c'est plus joli à l'arrivée.
Alors cette Miyuki, on l'a vu, Didier Degouin, elle est vaillante. Elle a aussi une autre caractéristique dont parle très bien le traducteur Tadao Takemoto.
Pendant cette grande époque de l'ukiyo-e, c'est-à-dire de la gravure japonaise, qui a tellement influencé vos peintres impressionnistes, les meilleurs exemples de la beauté féminine étaient venus des meilleures concubines. Donc, l'érotisme japonais, pendant cette époque féodale qui a duré tout de même pendant 260 années, c'est toute une grande époque, donc, n'est-ce pas? Donc, pendant cette époque-là, il y a eu toutes sortes de raffinements. Raffinements liés au raffinement tel que le représente merveilleusement l'estampe japonaise.
Voilà l'imaginaire de la concubine. Miyuki a beau être une petite paysanne humble, elle connaît le raffinement érotique.
Alors,
comment ça se fait?
Elle l'a d'instinct, je dirais, parce que personne ne lui a enseigné les gestes, les caresses, les baisers, etc. Elle l'a d'instinct. Et je trouve que quand une femme ou un homme, d'ailleurs, a un geste, une caresse érotique qui vous envoie au septième ciel, c'est 9 fois sur 10 une chose qui s'invente dans la spontanéité du moment. Parce qu'on est tout d'un coup bien... Notre corps invente tout de suite quelque chose pour le corps de l'autre.
C'est comme ça que Miyuki se retrouve à faire l'amour au nez de son mari.
Oui, alors ça, c'est très japonais.
Ah bon?
Au jour d'aujourd'hui, par exemple, nous dirions en France que c'est une, en Occident, que c'est une déviance. Il y a une espèce de plaisir à se manger le nez, à se lécher le nez. Le nose licking est une des caresses que préfèrent certains hommes japonais. Non, mais croyez-moi, c'est très, très agréable.
Je vous crois très volontiers, indépendamment de la rhinopharyngite, donc. Le temps d'une nuit, Miyuki devient quand même prostituée. Alors, je veux bien qu'elle ait de l'instinct, mais étrangement, ça ne lui pose pas de problème de conscience. Est-ce que cela signifie qu'elle n'a pas de morale?
Non, ça signifie que la prostitution, à cette époque et dans le milieu d'où elle vient et surtout celui qu'elle traverse, n'était pas considérée comme quelque chose de répugnant. D'ailleurs, les prostituées, on les appelait d'une très très jolie façon, on les appelait des empileuses de riz. Mais il n'y avait pas de sanctions sociales. C'était toujours dans l'idée qui est très japonaise de faire plaisir à l'autre. Le japonais pratique l'art du plaisir beaucoup plus que nous, qui un peu étouffé par notre morale judéo-chrétienne où tout peut être péché au risque de... nous avons tendance à nous censurer. Le japonais, il va vers le plaisir.
Alors il y a un grand Didier Decoing qui s'appelle Mishima,
ah, oui,
qui plaide un petit peu pour nous quand même.
Si vous n'étiez pas japonais, quel type de culture choisiriez-vous, Mishima? Sans aucun doute, je choisirai la culture française, surtout dans ses traditions gréco-latines.
Ah,
oui, ah oui,
quand même. C'était Mishima en 1969.
Mishima était fou du ce qu'il appelait le syndrome de Saint-Sébastien. Le martyr de Saint-Sébastien était pour Mishima le comble du bonheur. Il aurait voulu mourir comme ça, attaché à un pieu et fléché par tous les gens de son régiment. Il écrit très belles choses d'ailleurs sur le martyr. Moi, je lui préfère Kawabata.
Vous avez une façon très particulière de raconter Didier de Coin qui est happante. Aussi une façon de décrire les scènes. Vous vous appuyez sur un sens très précis, pas n'importe lequel.
Tu as vraiment essayé de distiller le parfum du cuivre, du fer, du verre. Quelle autre chose as-tu essayé? Non. Madonna Mia, as-tu totalement perdu la tête?
Vous avez dit de faire des tas d'expériences.
Des expériences, oui, mais pas avec le chat.
C'est le film Le Parfum, ouais. Adapté bien sûr de
Souskind.
Voilà.
Je déteste Souskind.
Ah
il
bon
a écrit le livre que je voulais écrire.
Ah voilà.
Quand je l'ai lu avec une gourmandise terrible, une rage folle. Qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ça?
Votre livre, effectivement, s'appuie sur l'odeur. Je vous cite. Les retours de Katsuro, c'est le mari de Miyuki, sentait la mousse humide, le saké, le linge gorgé de sueur et d'urine, la résine de pain, la paille et le soja. Et puis, ensuite, au gré du livre, tout événement s'accompagne de son odeur. Pourquoi ce sens-là, Didier de Coin?
Alors, on est à la radio, donc ça ne se voit pas, mais j'ai quand même un gros nez. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Je pense que j'ai tué de chien de chasse à une autre époque. Non, mais moi, c'est vrai que j'ai le sens olfactif, et celui que j'ai le plus développé. L'odeur, le parfum est pour moi le sens de... D'abord parce qu'il est terriblement intime. Parce que nous n'avons pas la même idée des odeurs que il y a des gens qui disent ça sent mauvais, et certaines soi-disant mauvaises odeurs sont pas si désagréables que ça à sentir. Des odeurs de pêche, de poisson par exemple. Alors, vous arrivez sur un bateau de pêche, ça sent le goudron, ça sent le gazole, ça sent l'entrailles de poisson, ça sent le chanvre mouillé, ça sent les bottes pas fraîches, etc. Mais tout ça, c'est un univers, et cet univers, il dégage une odeur qui, moi, par exemple, m'exalte.
Pour l'écrivain, c'est sans doute une autre paire de manches. La philosophe Chantal Jacquet explique que l'odeur suppose le lâcher prise, la soumission. D'ailleurs, on dit une odeur qui nous envahit, ça peut être très intrusif. Mais elle dit aussi que le vocabulaire olfactif est assez pauvre et que les modes de désignation, en général, sont hédonistes. C'est « ça sent mauvais » ou « ça sent bon ». Parfois de provenance, « ça sent la rose ». Comment fait l'écrivain que vous êtes, Didier de Coin, pour décrire une odeur? Vous avez tenté à un moment d'inventer des mots, tout un imaginaire finalement olfactif?
C'est une très bonne question, ça, parce que je me la pose tout le temps quand j'écris. J'ai besoin de... Alors c'est plus une association, c'est plus un travail de bijoutier qui met ensemble des mailles, les mailles d'un bracelet ou les perles d'un collier. C'est en associant des mots qui peuvent être antinomiques les uns par rapport aux autres qu'on arrive à... J'espère à donner l'impression d'une odeur. Mais c'est vrai que c'est difficile et c'est vrai que il faudrait oser inventer des mots pour décrire des odeurs. Parce que moi j'ai un autre problème, Clara, c'est qu'il n'y a qu'une odeur au monde que je ne supporte pas.
Laquelle?
Le vomi, c'est tout. Mais les autres, toutes les autres, je dis bien toutes, sans exception.
Ça vous heurte pas?
Aucune. Ce sont des odeurs entre guillemets amies, familières ou pas, mais ce sont des odeurs amies. Il y a une crotte de chien, ça sent pas bon. Mais c'est un chien qui l'a produite. C'est quelque chose d'extrêmement naturel, je n'irai pas mettre le nez dessus. Mais si elle est là, elle ne me perturbe pas. Mais si quelqu'un vomit, ça je ne suis pas en courant.
Jean-Marie Leclésio aussi aime le Japon. Je voudrais que vous écoutiez juste sa réflexion une fois qu'il avait vu le film « Les contes de la lune vague après la pluie » de Mizoguchi. Film qui était sorti en 1953. Remarquez qu'on est encore dans l'imaginaire des contes.
J'étais confronté à un rythme, à une volonté, on sent la volonté de Mizoguchi de créer de la beauté. Cette impression de dépaysement et en même temps d'enracinement, parce que l'art de Mizoguchi, ce n'est pas un art japonais. Mizoguchi utilise des éléments de la culture japonaise, des éléments de l'art japonais, mais il fait de l'art universel.
Il parle alors de la création de la beauté. Il parle aussi de la portée universelle de Mizoguchi. Et c'est assez troublant parce que, à la lecture de votre livre, on ressent un peu la même chose. Vous racontez une paysanne japonaise de l'an 1000 qui va trimballer des carpes dans une cité impériale, a priori ça n'a rien à voir ni avec moi, ni avec la majorité des gens. Et pourtant, ça nous parle. Elle est où l'universalité de cette petite paysanne, de cette Miyuzuki? Elle est où son universalité?
Elle est dans le fait que vous êtes parachuté dans un monde qui n'est pas le vôtre et qu'il faut vivre quand même. C'est ce que nous vivons tous les matins en nous réveillant. Nous arrivons dans une journée que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas du tout de quoi elle va être faite, mais nous pouvons avoir l'intuition qu'elle va être périlleuse, ou qu'il va falloir que nous nous battions. Et ben, on va se battre. Et ben, c'est exactement ce que fait Miyuki quand elle arrive dans la cité impériale, elle se bat. Je pense que tout être humain est un être en combat, en bataille. Pas forcément, il risque pas forcément sa vie, mais il risque sa joie, il risque son bonheur, il risque d'être malheureux à un moment. Moi, le livre, quand je l'avais commencé, il s'appelait pas Le Bureau des Jardins et des Étangs, il s'appelait Pauvre et Sale. Parce que c'était exactement la caractéristique de Miyuki. Et j'ai trouvé que c'était pas un titre très attirant, donc j'ai changé. Mais elle est comme ça, elle est ça. Elle n'est rien ni personne. Et c'est parce qu'elle n'est rien ni personne qu'elle est merveilleuse. Elle est Cosette non plus, n'est rien ni personne.
C'est le principe de la fleur qui pousse parmi les gravats.
Exactement.
Donc vous écrivez comme un japonais. Alors finalement.
Je crois que j'aurais pas détesté être japonais.
Il paraît que les secrets n'ont pas d'odeur. On parlait des odeurs, d'idées de coin. Alors c'est peut-être vrai. On va le savoir, puisque vous allez nous livrer vos secrets d'écriture, c'est l'heure du procès-verbal. Votre nom?
De coin.
Votre prénom?
Didier.
Vous écrivez assis, couché ou debout?
J'écris assis.
Sur ordinateur ou sur papier?
Sur ordinateur.
Vous êtes chez vous ou au café?
Je suis chez moi. Je suis chez moi, enfermé à clé, téléphone décroché, volet fermé, je suis dans une bulle ou dans un sous-marin, comme vous voulez, mais je suis complètement isolé du reste du monde.
Dans le silence, alors?
Non, dans la musique, pour éteindre les autres bruits. Je me fais une bande originale du livre, si je puis dire, tous les matins, j'ai un machin changeur, etc., où chaque scène que je prévois d'écrire dans la journée est musiquée à l'avance, et cette musique, elle est forte, de manière à éteindre les autres bruits.
Vous êtes un DJ d'écriture, vous avez fait votre playlist.
Je suis un tyran parfaitement emmerdant pour le reste de la maisonnée, surtout, mais oui.
Quelle heure est-il quand vous écrivez?
Alors, il est bêtement 15 heures. C'est l'heure à laquelle les gens disent qu'ils ont la tête un peu lourde, etc. Moi, c'est le moment où je suis le mieux.
Quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez?
Quand je suis dans ma petite maison de pêcheur, c'est dramatique parce que je vois la mer. Et que comme je suis amoureux de la mer et que j'adore aller dessus, quand je suis dans mon bureau, je me dis que je serais bien sur mon bateau. Et des fois, je craque. Je vais prendre le bateau.
Et c'est à ça qu'elle ressemble, votre pause, P-A-U-S-E, quand vous faites une pause?
Oui.
Est-ce que vous avez un rituel avant de vous mettre à écrire?
Ben, le rituel, c'est de toucher mes objets pour être sûr qu'ils sont bien là. C'est-à-dire, mon clavier d'ordinateur, mais mieux que ça, j'ai un petit ange en plastique qui est supposé protéger l'ordinateur des bugs. J'ai des petits chats, parce que je suis un amoureux des chats. J'ai des petites choses comme ça que je touche et qui sont supposées porter bonheur à l'écriture du jour.
En tout cas, pour l'instant, ça a marché. Merci, Didier Decoin, vous êtes libéré du procès verbal. Contrairement à vous, votre héroïne Miyuki, elle est pas complètement libre. Elle pense à son mari, elle ne se défait pas de son souvenir. Ça lui fait un point commun avec le chanteur Sting. Oui, quand il chante « I can't stop thinking about you ». Vous écoutez la Muse-Bouche jusqu'à 20h en compagnie de Didier Decoin et de son roman Le Bureau des Jardins et des Étangs, une plongée dans le Japon médiéval. Et qui connaît par cœur ses remontées dans le temps, ses voyages à travers les pays mieux qu'un libraire? Personne, Didier Decoin, nous sommes d'accord. D'ailleurs, c'est l'heure, je ne sais pas pourquoi il nous appelle à cette heure-ci. Ah! Sonnerie. Allô.
Allô, bonsoir, c'est Frédéric, j'appelle pour l'apéro.
Oh, okairi, Frédéric, ça veut dire bonsoir en japonais. Ne seriez-vous pas Frédéric Franco de la librairie Le Goût des Mots à Mortagne-au-Perche?
Oui, c'est bien moi.
Bingo, soyez la bienvenue, Frédéric. Ouais. Et dites-nous, quelle est la question la plus farfelue que vous avez entendue dans votre boutique?
Alors, une question assez récente, c'était à la fin de l'été. Une dame très élégante entre dans la librairie, elle parcourt les rayons, elle fait le tour de la table littérature plusieurs fois. Donc je lui demande si elle a besoin de mon aide, si elle cherche quelque chose. Elle me répond qu'elle cherche nos best-sellers. Je m'attends donc, comme nous sommes fin août, début septembre, à ce qu'elle m'interroge sur la rentrée littéraire. Et il se trouve qu'elle cherchait le livre de Nicolas Sarkozy, qui ne figurait pas parmi notre sélection de la rentrée littéraire.
La France pour la vie, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Au rayon, donc best-seller.
Voilà.
L'instant primaire, hein, sans doute. Bon, fallait la faire. C'est de l'humour japonais. C'est de l'humour japonais. Frédéric, quel roman conseilleriez-vous à notre invité Didier Decoin?
Alors, je reste au Japon et je vous propose Le Ruban de l'auteur japonaise Ito Ogawa. Alors là, on va pas être avec des carpes, mais avec un oiseau.
Oh, j'ai rien contre.
Alors, c'est l'histoire d'une mamie, d'une grand-mère, qui va recueillir un œuf tombé du nid. Elle le garde bien au chaud dans sa chevelure pour qu'il continue à être couvé.
Elle le met à couver dans ses cheveux.
Exactement, dans ses cheveux, voilà. Et elle fait ça en secret avec sa petite fille. C'est leur grand secret, elles sont très complices autour de ce projet. Et l'oiseau est clos et elle le baptise Ruban, parce que sa grand-mère lui dit qu'ainsi elles resteront liées à jamais. Mais un jour, l'oiseau quitte le nid, il s'envole, il s'échappe, et en fait, il va aller à la rencontre de plein d'autres personnages qu'on va découvrir dans l'histoire. Et à chacun de ces personnages, il va apporter un petit rayon de soleil, il va symboliser l'espoir, la liberté, il va les aider à un moment de leur vie un peu délicat. Et au bout du compte, on a un livre très poétique et très lumineux.
Très heureux. Le titre du livre conseillé par Frédéric, c'est Le Ruban de Ito Ogawa aux éditions Philippe Piquet.
Oui, exactement.
C'est très très joli. Les contes japonais, c'est merveilleux. Hein. Ça, c'est magique, ça.
Et on a trouvé un point commun entre la carpe et l'oiseau, grâce à Frédéric.
Un petit oiseau, un petit poisson, c'est mes amours tendres.
Vous voyez, Frédéric, vous inspirez Didier Decoin qui se met à fredonner une ritournelle. Merci, Frédéric, de la librairie
merci
Le Goût des Mots
merci.
À Mortagne, au Perche. Et puis merci au magazine Page, la revue des libraires, qui nous accompagne dans cette émission. Frédéric, on vous attend pour boire un petit verre de saké.
J'arrive.
Ça s'impose. À tout de suite. En attendant, Didier Decoin, on passe aux inavouables. Oui, parce qu'on peut régner sur les lettres comme sur un étang de carpe, on n'en est pas moins homme.
Oula.
Et justement, donc faillible, vous avez des failles. Et justement, y a-t-il un film, une chanson, un livre, alors catalogué un peu indigne, que vous aimez en toute discrétion?
Oui, ou même très ouvertement. Moi, je suis un fan de camping.
La trilogie au cinéma
de Fabien Antoniente.
Qui l'eût cru?
Alors, qui l'eût cru? Oui, ben, c'est souvent mes amis, je dis, mais tu vas pas aller voir ça. Si, je vais aller voir ça. Parce que j'adore les vacances. Les voir les gens partir en vacances. Même moi, si je suis coincé, je ne peux pas partir. J'adore ça. La bouée canard, elle est rutilante, elle est bien gonflée. Elle fait vraiment coin-coin quand on appuie dessus. Et alors, camping, c'est ce monde-là. Le monde de Patrick Chirac.
Patrick Chirac.
C'est ce monde simple des bonheurs simples.
Hé, Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en bienfite, il faut que t'étales, hein.
Toujours aussi drôle, hein.
Bon, on est où, là, s'il vous plaît?
Entre Arcachon et le Moulon.
Vous n'avez qu'à dire camping des flots bleus.
Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici, alors?
Ah, bah non, on sera obligé de venir là tout le temps.
Mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans.
Oui, mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça, le camping.
Alors, on n'attend pas Patrick? Patrick is back.
Phrase culte. Patrick Isbach.
Il y a eu... merveilleux du boss là-dedans. Hein. Oui, il est formidable.
Et puis fédérateur, parce que pour le premier opus sorti en 2006, il y a eu 4 millions de spectateurs. Ouais. Non, 5 millions pour le premier, 4 millions pour le deuxième, 3 millions pour le troisième.
Patrick, je
ne
suis pas
2016.
Encore allé voir le troisième, je vais faire monter le score.
Ah ben, vous voyez. Est-ce qu'il y a une chanson Didier Decoing que vous aimez aussi en toute discrétion, même ouvertement?
Oui, alors, mais elle n'est pas toute neuve. C'est une chanson qui me fait hurler de rire et en même temps, elle me fait sangloter. C'est une chanson de Patricia Carli.
Patricia Carli.
Oui, cette chère Patricia Carli.
Comment s'appelle la chanson?
Le titre, je ne sais pas. Les paroles, je sais. Arrête, ne me touche pas. Ça s'appelle comment?
Demain, tu te maries.
Demain, tu te maries.
Arrête, ne me touche pas. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Je ne peux plus supporter. Avec une autre, te partager d'ailleurs. Demain, tu te maries. Elle a de l'argent, elle est jolie. Elle a toutes les qualités. Mon grand défaut, c'est de t'aimer. Chez elle,
les vies. Violon, je vous voyais fredonner des dieux de quoi.
Ma femme et moi, nous partageons une passion pour cette chanson, parce que c'est un petit roman en soi. J'adore les chansons qui racontent, qui racontent des histoires complètes, avec un début, un milieu, une fin. Alors, ils sont des bébés romans chantés.
Là, cette chanson, elle date de 1963. Elle a été reprise par Dalida.
Ah, ça, je l'ignorais.
Oui, et ça me donne très envie de parler comme ça, vous savez.
D'aller voir le film.
C'est une façon de parler. Oui, rouler.
Non, mais ce qui est terrible, c'est elle est jolie, elle a de l'argent. Tout est dit d'une époque où c'était ça qui pouvait attirer un mec. C'est affreux pour nous les hommes, cette chanson.
Est-ce qu'il y a un classique, Didier Decoing, qui vous tombe des mains? Vous essayez de le lire, ça, vous n'y arrivez pas.
Oui, mais c'est pas tellement qui m'ennuie ou j'y comprends, c'est qu'il m'énerve.
Il m'énerve. Comme Patricia Carli. Il m'énerve. Ben oui,
c'est un auteur qui est bon par ailleurs, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de Henri Beldy Stendhal.
Ah, c'est le rouge et le noir,
mais
que
c'est le rouge
qui
et le noir qui me tombe bien, parce que tous les personnages de ce livre m'indisposent, m'énervent. D'abord, je ne supporte pas Julien Sorel, qui est un hypocrite total et absolu. Je n'aime pas le milieu dans lequel il évolue. Je trouve ce livre très bien fait, mais fallait-il vraiment l'écrire? Et à chaque fois, je me dis, bon, non, j'étais pas dans une bonne condition la dernière fois que je l'ai lu, parce que j'ai essayé plusieurs fois. Et cette fois-ci, je vais entrer dedans. J'entre dedans, mais j'entre dedans avec rage, avec colère. J'aime pas ce livre, voilà.
Et du coup, vous reculez.
C'est une chose, quand on n'aime pas un livre, faut pas insister, faut le fermer.
C'est sur cette sentence définitive que nous allons ranger les amuse-bouches et passer à table. En France, on dîne un peu plus tard qu'au Japon, mais on lit autant, c'est déjà ça. Alors jetez-vous sur Le Bureau des Jardins et des Étangs de Didier Decoing, paru chez Stock. La semaine prochaine, Geneviève Brisac sera avec nous pour Vie de ma voisine, paru chez Grasset. L'amuse-bouche est une cité impériale dominée par Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Alexandre Chenet. Juste après nous, c'est D'ici d'ailleurs de Zoé Varier. Bonne semaine, n'oubliez pas de lire et vous aurez la placidité d'une carpe japonaise. Sayonara, à samedi.
Sayonara.